Émission spéciale Réserve fédérale des États-Unis, la Fed. La Fed peut-elle se permettre une pause ce mercredi 14 juin dans son resserrement monétaire et voir pivoter à la baisse d'ici l'automne? Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Je vous propose en cette semaine décisive sur le plan des fondamentaux, l'inflation US, mardi selon le CPI, la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi, avec la mise à jour de ses projections macroéconomiques. Je vous propose un état des lieux, une analyse complète dédiée à la Fed. Nous allons faire plein de choses, mais je vais essayer quand même de vous faire un format pas trop long, pas trop court non plus, condensé, j'espère enrichissant. J'ai tout mis à l'écrit dans les slides, vous me connaissez, vous avez la barre de temps avec tout le chapitrage si vous voulez aller là où ça vous intéresse directement. On fait quelque chose de solide. Tellement solide, ce sera à vous de juger, tellement solide que j'ai dû me préparer un petit plan pour rappeler tout ce que je vous ai proposé. Alors, ce que je vais vous proposer déjà, alors bon, vous avez compris, mardi l'inflation, mercredi la Fed, n'oublions pas jeudi la BCE, mais je ne traite pas la BCE dans cette émission, j'en parlerai mercredi dans le Fast and Forex. Déjà, je vais revenir sur quoi? Sur la politique monétaire archi-restrictive de 2022, de la Fed, et ses effets ravageurs sur la bourse et l'économie. On va partir de cette base. Ensuite, je vous rappellerai les trois, en fait les quatre objectifs global macro que suit la Fed et qui orientent ce qu'on appelle la forward guidance et qui orientent sa politique monétaire et ses perspectives. Et nous allons ensuite les prendre un par un et voir où en sont ces objectifs et voir s'ils autorisent, voir s'ils rendent crédible une pause de la Fed là ce mercredi. Et voir pour les plus optimistes d'entre nous, vous et moi, un pivot d'ici l'automne. Alors, la désinflation, la croissance du PIB, l'emploi, la stabilité bancaire, bon, voilà les quatre cibles. Et enfin, je vous propose en conclusion, mais pas en conclusion, vraiment en partie importante, tous les outils de marché pour pricer ce que va faire la Fed, savoir qu'est-ce qui est pricé, qu'est-ce qui n'est pas. Les outils de marché, les cotations, où aller voir, comment savoir à travers le positionnement des marges du marché, des flux de marché sur les grands assets, ce que va faire la Fed. Donc, ça va être assez complet. C'est parti. Alors, chers amis, je me suis réduit. C'est parti. Émission spéciale Fed, la Banque Centrale Américaine. Peut-elle se permettre une pause en juin et voir un pivot à l'automne, c'est la grande question. Le plan s'affiche ouvert. Je vous l'ai déjà détaillé. Je vous rappelle donc les deux dates importantes, mardi l'inflation et mercredi la Fed. Et comme je vous ai déjà détaillé le plan, eh bien, on passe directement au vif du sujet. Et on commence par, commençons par le commencement, ce qu'il se passe depuis 22 ans. La Fed est responsable de tout. Enfin, la Fed n'est pas responsable de l'inflation. Enfin, en partie. C'est surtout la politique budgétaire des États. Bon, bref, il s'avère qu'en 2022, inflation hausse verticale, et encore sur 2023, la Fed a dû changer son fusil d'épaule, enfin même de manière incroyable, faire un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'elle faisait depuis la crise financière de 2008. Ça a été violent d'un point de vue du momentum de la hausse des taux d'intérêt pour briser l'inflation et ça a causé des dégâts ravageurs à l'économie et au marché. Donc on va revenir sur ça, la base de départ. Et maintenant, le thème de la vidéo, marquer une pause, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrêter d'accroître le degré de cette politique monétaire restrictive aux effets ravageurs. Et pivoter, c'est quoi? Mais c'est refaire un virage à 180 degrés, retrouver des conditions accommodantes pour resoutenir l'économie, refaire souffler les marchés financiers, enfin certaines classes d'actifs. Donc voilà, alors c'est parti en attaque, les premiers slides. La politique monétaire archi-restrictive de 2022 et ses effets ravageurs sur l'économie et le marché. Première partie. C'est un momentum vertical de la remontée du taux d'intérêt des Fed Funds, plus vu depuis le choc pétrolier des années 70. À l'époque, c'était l'inflation énergétique. La politique monétaire globale hawkish, restrictive, en 2022 de la Fed, baisse du bilan, cycle haussier de ses taux d'intérêt, pour lutter contre une hausse tout aussi verticale des différentes mesures de l'inflation de la Fed, le CPI, le PCE, le PPI, PPI pour prix à la production. Les effets désastreux sur certains secteurs de l'économie réels, en particulier l'immobilier aux États-Unis, mais aussi en Europe, ça se met en place. Et le bilan des banques régionales américaines aux États-Unis, vous savez que les deux tiers des Américains sont bancarisés dans les banques régionales. C'est très différent du système suisse ou du système français. Les effets baissiers majeurs sur le marché actions et surtout le marché obligataire, du fait du repricing de la nouvelle courbe des taux. Donc, on va regarder quelques illustrations sur l'ensemble de ces sujets. Donc vous les avez ici sous les yeux, mais on va directement sur TradingView. Voilà donc ce que fait la Fed. Alors, vous avez en violet le taux d'intérêt des Fed Funds, en bleu le bilan de la Fed, en orange le S&P 500. Regardez donc ici, vous aviez la politique de taux zéro liée au Covid qui a permis l'envolée du S&P 500, l'envolée du bilan de la Fed au moment de Covid. Et depuis début 2022, un momentum vertical de la hausse du taux d'intérêt des Fed Funds et l'engagement d'une réduction du bilan. Alors là, il y a eu un rebond du bilan de la Fed, c'était la crise bancaire en mars. Hein. Mais regardez, c'était un tel momentum haussier. Regardez le taux d'intérêt des Fed Funds depuis tant d'années. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça depuis les chocs pétroliers des années 70, où il fallait briser l'inflation énergétique. Donc, c'est quelque chose. C'est violent ce qu'a fait la Fed en 2022, d'un point de vue de son action, d'un point de vue de son action monétaire, avec donc comme objectif de tuer dans l'œuf l'inflation. Vous avez là, ici, un certain nombre de mesures de l'inflation, le PPI, le CPI, le PCE, il y a l'angoisse verticale. Maintenant, ça retombe, on va en parler, justement, la question de savoir est-ce que cette retombée de l'inflation dans sa nature, dans sa composition, permet d'envisager une pause, j'y viens, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que ça a été... je suis sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est une des antennes régionales qui appartient à la Réserve fédérale des États-Unis. Voilà, vous pouvez comparer sur longue période depuis les années 60, on a un momentum de l'inflation qui est très similaire à ce qu'on avait eu au moment des chocs pétroliers des années 70. Alors notez, vous avez en grisé ici toutes les phases de récession, toutes les phases de récession. On voit bien qu'en période de récession, l'inflation est baissière. Alors pour certains, justement, là, nous y serions déjà, ce qui expliquerait la baisse de l'inflation, ou c'est simplement une correction, bref, des excès d'inflation de 2021-2022. En tout cas, voilà. Désormais, vous avez ici le CPI et le PCE qui ont entamé une tendance baissière, sauf l'inflation sous-jacente, j'y viendrai plus tard. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La Fed a voulu briser, a voulu lutter contre cette inflation. C'est son objectif premier, on va y revenir. La politique monétaire archi-restrictive de 2022 et ses effets ravageurs sur l'économie et le marché, oui, les effets ont été ravageurs sur les marchés financiers. Je vous remontre ici le bear market de 2022, où vous aviez eu en 2022 à la fois, et c'est ça qui est complètement anodin, à la fois une chute à deux chiffres du marché action, et une chute à deux chiffres du marché obligataire, un crack obligataire et un bear market sur les actions. Ça a été vu, je crois, deux ou trois fois depuis la crise des années 30. Et la chute, ce qui était en fait marquant en 2022, entre 2021 et 2022, c'est surtout pour moi le crack obligataire. Finalement, plus que le marché action, qui a perdu entre le plus haut et le plus bas, peut-être 30%, on est loin du crack de 2001 ou de 2008. Donc c'était surtout du point de vue du marché obligataire, c'est pour ça, moi, je pense que là, c'est l'opportunité sur le marché obligataire. Mais ça, j'en parlerai pas, j'en ai assez parlé. Pas dans cette vidéo. Donc, voilà, il y a eu, tous les actifs risqués ont chuté. Hein. Vous vous souvenez des moins 70% du cours du Bitcoin en 2022. Donc voilà, donc il y a eu des effets très importants. Là, je vous ai mis le contrat obligataire de l'Allemagne, Bund, moins 20%, le Nasdaq, moins 32%. Ça, c'était donc 2022. Et les effets de cette politique monétaire restrictive sur le marché, je peux vous les illustrer ici de différentes façons. Vous avez ici, donc qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du S&P 500. Vous avez en bleu le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, qui est considéré comme le taux du marché qui anticipe le plus l'action à venir du taux d'intérêt des Fed Funds. Eh bien, regardez, le point de départ du bear market de 2022, c'était l'envolée verticale des taux d'intérêt du marché. Il partait de zéro. Regardez, hein, ça partait de zéro. On est resté à zéro de mars 2020 de la crise sanitaire jusqu'à septembre 2021. Et c'était le bull market. Il n'y a pas de secret. Et alors, si maintenant le S&P 500 rebondit depuis octobre dernier et casse des résistances, c'est parce que les taux ont cessé de monter. On ne va pas dire qu'ils ont engagé une phase baissière, par contre. Et ce qui a été marquant, je vous remontre ici, vous avez le contrat de taux, l'obligation du Trésor public américain, l'échéance à 10 ans, le T-note à 10 ans, la chute de son prix de 160% à 115%, c'était, on exprime ça en pourcentage du nominal hein, pour le prix d'une obligation, c'était le crack. Et à mettre en parallèle de la hausse verticale du taux d'intérêt des Fed Funds, et là, des taux du marché, le taux américain à 10 ans et le taux américain à 2 ans. Donc, il y a eu des effets très importants sur le marché action et il y a eu aussi des effets ravageurs sur l'économie. Donc là, on est toujours dans la première partie, partie numéro 3, les effets désastreux de cette politique monétaire restrictive. C'est pour ça qu'on en arrive au sujet, la question d'une pause, voire d'un pivot. Et les effets désastreux sur certains secteurs de l'économie réelle, pas surtout, en particulier l'immobilier. Je vous ai mis en bas à droite l'évolution en rythme annuel du prix des maisons aux États-Unis selon Case Shiller. C'est une vingtaine de grandes villes américaines. Regardez la croissance annuelle mois après mois en chute. Et là, on vient de passer en négatif. Et je vous montre aussi quelque chose. Vous savez que les banques régionales américaines ont été mises sous très haute pression. Ça, vous l'avez suivi. Je vous montre le secteur ici, l'évolution du plus gros de l'indice sectoriel des banques régionales américaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les deux tiers des Américains sont bancarisés et font même leur crédit auprès des banques régionales. L'indice sectoriel des banques régionales, en 2 ans, il a perdu 60% en bourse. Et vous avez suivi toute l'actualité de mars avec plusieurs banques régionales américaines qui sont tombées et qui ont été sauvées uniquement parce que la Fed est arrivée avec un nouveau programme pour nettoyer leur bilan et leur injecter des liquidités en leur achetant des obligations à un prix bien supérieur à ce qu'était leur prix du marché. Donc la Fed a pour ça utilisé son bilan. Donc il y a eu des effets dévastateurs sur les banques régionales. Il y a eu des effets dévastateurs sur l'immobilier. Je peux vous montrer aussi ici un autre indicateur de l'immobilier, l'évolution au rythme annuel des permis de construire aux États-Unis. Là, vous avez là, par exemple, la récession de 2008. Vous voyez, voilà donc la tendance baissière qui a provoqué cette politique monétaire archi-restrictive aussi dans le secteur de l'immobilier résidentiel. Donc là, nous avons vu les effets ravageurs de cette politique monétaire restrictive. Maintenant, la Fed va-t-elle marquer une pause ce mercredi 14 juin ? Va-t-elle encore augmenter une dernière fois ses taux cet été avant de pivoter à l'automne ? Eh bien, pour ça, il faut regarder les objectifs qu'a la Fed. La Fed, elle est rationnelle, elle a des targets. Si elle les atteint, elle pivote. Si elle ne les atteint pas, elle ne pivote pas. Alors, objectif premier, objectif primaire, un taux d'inflation sous-jacent, sous contrôle, c'est-à-dire pas en tendance haussière, et autour des 2% par an. L'inflation sous-jacente, à la différence de l'inflation nominale, c'est l'inflation auquel on retire les éléments volatiles que sont l'énergie et l'alimentation boisson. Objectif numéro 2, un rythme de croissance économique positif, à la fois dans les secteurs des services et manufacturiers. Objectif numéro 3, un taux de chômage bas sur longue période. Bas, c'est-à-dire autour des 4-4,5%, mais surtout qui n'est pas en tendance haussière, La tendance, c'est très important aussi. Afin de mettre un terme à sa politique monétaire restrictive en place depuis janvier 2022, afin donc de pivoter dans un cycle monétaire accommodant. C'est-à-dire que là, son taux directeur actuellement est à 5,25. Marquer une pause, c'est rester à 5,25. Le taux terminal, c'est le taux butoir. Est-ce que ce sera 5,25 ou 5,50? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a un débat là-dessus. La probabilité reste 5,50. C'est-à-dire qu'après une pause ce mercredi, elle pourrait les réaugmenter cet été. Et le pivot, c'est le fait d'engager une tendance baissière de son taux d'intérêt des Fed Funds, réunion après réunion. À voir. Donc, afin d'engager une politique monétaire, afin de mettre un terme à cette politique monétaire restrictive et de pivoter, la Fed pivotera uniquement si l'inflation sous-jacente arrive à 2%, et encore, il faudra qu'elle s'installe un peu en dessous. Si la Fed devait pivoter avant une telle désinflation, imaginons que la Fed pivote par urgence, même si l'inflation reste supérieure à 2%. Cela serait permis, et uniquement permis, par une nette augmentation du taux de chômage et ou la résurgence d'un choc bancaire profond, comme vu en mars dernier. Donc, ce mercredi 14 juin, vous devez suivre en priorité la mise à jour des objectifs macroéconomiques de la Fed. Je m'explique. La Réserve fédérale des États-Unis ne met pas à jour ses objectifs économiques à chaque réunion. C'est une réunion sur deux. Donc là, elle ne l'a pas faite depuis fin 2022. Donc c'est majeur. Et je vais vous remontrer ça, d'ailleurs, ce sera plus pratique, directement sur le site, savoir donc ce qu'il faut suivre. Je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez la liste des réunions date après date et vous constatez que pour le 14 juin, vous avez une petite astérix. C'est-à-dire qu'elle va mettre à jour ses objectifs, ce qu'elle n'a pas fait depuis mars dernier. Et donc, ça va se présenter comme ça. Ça va se présenter sous la forme d'un tableau où elle va mettre à jour ses objectifs en termes de croissance, d'inflation, d'emploi. Il n'y a pas ici des objectifs à proprement parler en termes de stabilité bancaire, mais ça reste quand même un objectif, mais c'est hors data. Ce mercredi, regardez notamment ce qu'elle prévoit en termes de taux de chômage, parce qu'elle prévoyait déjà une petite augmentation du taux de chômage, mais in fine, à la fin, plutôt stable. Et surtout, c'est regarder ce qu'elle va mettre à jour en ce qui concerne le core PCE inflation, l'inflation PCE sous-jacente. C'est ça qui compte. Et on va voir si par rapport à ce qu'elle disait en mars, est-ce que c'est plus accommodant ou pas. Et c'est ça donc qui va guider son action et sa décision donc à venir. Alors maintenant, on va aller regarder un par un ses objectifs, voir où est-ce que nous en sommes. Désinflation. La Fed peut-elle se permettre une pause ce mercredi 14 juin et quelles sont les perspectives? L'objectif primaire est donc un taux d'inflation sous-jacent sous contrôle et autour des 2% par an. Les trois mesures de l'inflation et leur version nominale et sous-jacente, sachant que la Fed regarde d'abord la version sous-jacente. Vous avez l'indice des prix à la production, ou PPI, qui est en chute libre. Ça, c'est un très bon point pour une pause. Et qui est très souvent en avance sur les prix à la consommation. Regardez aussi la chute du prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai fait une vidéo spéciale sur le pétrole Fast and Forex mercredi dernier que je vous invite à reprendre. Ensuite, deuxième, le CPI. Le CPI qui est attendu en forte baisse en mai et en juin. D'après l'algorithme de la Fed de Cleveland, d'après l'analyse de ses composantes, ce que nous allons faire, d'après l'application Trueflation. Mais à la fin, la Fed regarde surtout le PCE. Pourquoi? C'est l'indice préféré de la Fed, en fait, pour une raison de composition. Alors, je vous ai remis ici en bas à droite les différentes composantes et on compare le CPI et le PCI. Et en fait, la Fed préfère suivre le PCI parce qu'il y a davantage les services. Et comme l'économie américaine est une économie de services, pour l'inflation, on regarde aussi l'inflation des services. Alors, bonne nouvelle, le PPI s'effondre. Historiquement, c'est donc ce que je vais vous montrer ici. Historiquement, le PPI, il est là, les prix à la production. Ça s'effondre. Vous avez ici la chute des prix à la production en version nominale et en bleu en version sous-jacente. Ça, c'est une excellente chose. Et en général, quelques mois après les prix à la production, suivent les prix à la consommation. Lorsqu'on regarde le PPI, on se dit que oui, la Fed va marquer une pause sans ambiguïté. Très bien. Ensuite, l'inflation à la consommation. Elle est mise à jour mardi 13 juin. Elle est actuellement à 4,9. D'après l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, elle devrait être en mai de 4,13 et en juin de 3,27. La Réserve fédérale de Cleveland est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis. Ça, c'est très engageant. Mais je vous rappelle que la cible, c'est 2%. Et que la Fed, pour vraiment pivoter sans stress, il faudra que ce soit à 1,5. Donc, mais c'est quand même pas mal. Et à ce rythme-là, en septembre, on est à 2%. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant là pour autoriser une pause? Oui et non. Oui, d'un point de vue nominal. Non, d'un point de vue de l'inflation sous-jacente. Elle ne veut pas lâcher l'inflation sous-jacente. Elle ne veut pas lâcher. Et elle ne veut pas lâcher. Pourquoi? Parce que vous avez ici toutes les composantes de l'inflation. Alors oui, l'inflation énergétique, elle est même négative maintenant avec la chute du prix du pétrole. Ça, c'est un très bon point. Et effectivement, on voit bien que l'inflation énergétique, en général, après quelques semaines ou quelques mois, l'inflation sous-jacente suit. Mais voilà, on va regarder quelques composantes de l'inflation sous-jacente et en particulier l'inflation des services. Et là, vous voyez, on vient à peine d'entamer une baisse. Ça stresse la Fed. La Fed, elle regarde aussi l'inflation immobilière, shelter. On vient à peine d'entamer la baisse. Alors, il y a un problème aussi, c'est que l'inflation immobilière, shelter, dans l'indice des prix à la consommation, là, ne tient compte que des contrats de location faits il y a un certain nombre de mois. Lorsqu'on regarde les contrats de location qui sont faits maintenant en temps réel, en fait, c'est l'effondrement. Et c'est ce que montre très bien l'application Trueflation, qui montre la poursuite de l'effondrement de l'inflation. Et lorsque vous regardez les composantes de Trueflation, et en particulier la partie housing, on est très loin, on est beaucoup plus bas que les chiffres de l'inflation officielle. Donc ça, c'est plutôt engageant pour les prochains mois, je dirais. Et d'ailleurs, vous regardez toutes les composantes de Trueflation, santé, utilities, qui sont des c'est la chute libre. Donc, bon, je dirais que Trueflation va dans le sens de ce qu'envisage l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. C'est plutôt pas mal pour se dire que la Fed pourrait marquer une pause, mais pour qu'elle pivote, et pour qu'elle n'augmente pas son taux ensuite à 5,50 cet été, il faut vraiment que dans le CPI global qui va être mis à jour mardi là, et puis ensuite en juin, il faut vraiment que service moins l'énergie et que shelter entament vraiment un renversement baissier. Alors, les nouveaux véhicules aussi sont importants à surveiller, mais là, le renversement baissier a déjà été fait. Donc, vous avez là quand même les trois catégories qui sont les plus importantes. Ensuite, pour que la Fed marque une pause, deux aspects. Il faut donc que la croissance économique du PIB soit intéressante. Et la question de savoir, est-ce que les taux élevés de manière durable, imaginons que la Fed atteigne son taux terminal mais ne pivote pas. C'est-à-dire qu'elle laisse ses taux élevés. Est-ce que ça pourrait représenter un risque pour l'économie? Alors, ça, c'est une vraie question. Moi, j'ai regardé d'abord l'illustration ici qui est en haut à droite, où je vous ai mis les taux d'intérêt obligataires des entreprises selon la notation de crédit. En rouge, les triple C, en bleu, les triple B, en A, les triple A. Oui, les taux obligataires des entreprises ont augmenté, mais somme toute, dans des proportions déjà vues depuis la crise financière, et on est très loin de l'envolée haussière de la crise financière, donc ça peut rester acceptable. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les anticipations de bénéfices des entreprises, ici pour le S&P 500, ça, les économistes restent archi-optimistes quant à la poursuite de la croissance des bénéfices. Mais voilà, ça, ils sont souvent en retard, et seuls les prochains mois nous diront si les entreprises peuvent faire face à de tels taux d'intérêt, de même pour les particuliers, leur accès au crédit à la consommation, leur accès au crédit immobilier, sachant que beaucoup de particuliers aux États-Unis consommaient via crédit à la consommation, donc voilà, bon, et lorsque le crédit va arriver à échéant, voilà, lorsqu'ils auront tout consommé, le crédit, qu'ils vont refaire un nouveau crédit, est-ce qu'ils vont pouvoir, enfin, il y a plein de questions qui se posent, et ça, c'est l'incertitude des prochains mois. Alors maintenant, l'autre objectif prioritaire de la Fed, c'est le chômage. La hausse du taux de chômage. À partir de quel niveau la Fed serait contrainte à pivoter? Alors, notons que lorsqu'on regarde les objectifs de la Fed, les derniers de mars, la Fed anticipe une hausse modérée du taux de chômage à horizon 2025, actuellement de 3,7% de la population active à 4,5%. En fait, sur le long terme, la Fed, elle vise un taux de chômage stable autour des 4,5%. Toute envolée du taux de chômage au-dessus des 4,5% de la population active serait une incitation à rendre la politique monétaire accommodante, car ce serait là le signal concret de la récession économique. Alors, on va regarder, je vais vous remontrer le modèle combinatoire Real-Time Sam Rule, qui fait un lien entre récession et taux de chômage. Pour suivre les données du marché du travail aux États-Unis, vous avez chaque mois le rapport NFP, l'enquête ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les inscriptions hebdomadaires continues au chômage, les job cuts. Et dites-vous bien une chose, les entreprises, elles se mettront à licencier uniquement si leurs marges sont menacées par la masse salariale. Donc pour l'instant, là, effectivement, il y a une hausse du taux de chômage, il y a une augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage, ça reste encore contenu, donc il n'y a pas de stress, mais il y a un début de tendance qui n'est pas sympathique, aussi du côté des job cuts, mais ce n'est pas encore massif. Et je dirais que c'est vraiment l'enjeu des prochains mois, si on part du principe que la désinflation est plus ou moins acquise. Alors, on va regarder où est-ce qu'on en est, et je vais vous montrer un super algorithme qui est disponible sur la réserve fédérale de Saint-Louis et qui permet de répondre à cette question. À partir de quel taux de chômage la Fed aura des pressions pour pivoter? Donc là, je vous ai remis le taux de chômage, mais je vais vous le montrer directement ici. J'ai mis, voilà, il est là. Donc voilà, le taux de chômage a fait un petit rebond à 3,7% de la population active. Alors oui, vous avez ici l'historique de l'évolution du taux de chômage aux États-Unis et les phases de récession. Bon, il y a un début de truc. Et c'est pas non plus l'envolée. Alors à partir de quand la Fed, voyez, à partir de quand on est rentré en récession, c'était vraiment à chaque fois qu'on dépassait les 4,5-5, c'était très mauvais signe. Là, on est à 3,7. Et donc ça c'est actualisé chaque mois. Maintenant, vous avez sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, l'algorithme Real-Time Sam Rule Recession Indicator qui nous dit quoi? Que à chaque fois que la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage est en hausse de 0,5% au-dessus de son plus bas depuis 12 mois, à chaque fois que la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage est en hausse de 0,5% par rapport à son plus bas d'il y a 12 mois, c'est l'indication d'une récession. Là, on est à plus 0,03. Donc, on n'est pas encore sur les plus 0,5. Enfin, quatrième objectif, bien sûr, la Fed cherche à assurer la stabilité du système bancaire, mais elle a trouvé la parade pour ne pas être obligée de pivoter d'un point de vue de son cycle des taux d'intérêt, c'est qu'elle a recours à son bilan. Alors ça, je vous l'ai montré tout à l'heure et je vous le remontre. Lorsqu'il y a eu la crise bancaire en mars, voilà, regardez, la Fed, il y a eu un rebond du bilan de la Fed, ce qui lui permet quand même encore de resserrer sa politique monétaire, car elle a lancé un programme en fait pour nettoyer le bilan des banques régionales les plus faibles. C'est de sa faute, hein, c'est elle qui a causé le krach obligataire. Le problème, c'est que ces banques régionales, elles avaient plein d'obligations dans leur bilan qui valaient quasiment plus rien. Elle a été gentille, la Fed, elle les a rachetées au pair à 100% du nominal. Bon, mais donc au final. Il faut regarder quelques indicateurs. Vous avez l'indice S&P des banques régionales, l'indice S&P 500 super secteur. Mais au final, la Fed, elle arrive à gérer ça avec son bilan. C'est donc ce que je viens de vous montrer. Alors, où en est-on par rapport à la stabilité bancaire? Ça commence à aller mieux. Je vous remontre ici l'indice des banques régionales américaines. Qui se stabilise sur ses plus bas de la crise sanitaire. Il y a peut-être un début de divergence haussière en hebdo, voilà, donc bon, il ne faut pas encore s'extasier, mais il y a un début de stabilisation des banques régionales US en bourse. Vous pouvez aussi regarder l'indice S&P 500, super secteur des valeurs financières aux États-Unis, où là, ce qui est intéressant, c'est que le marché a tenu aussi un support majeur. J'enlève l'Ishimoku, vous puissiez voir l'indice des valeurs financières S&P 500. On s'accroche à l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Il y a du mieux, il n'y a pas non plus. On est très loin des performances. Je remontre l'indice S&P 500. On est quand même très loin des performances du S&P 500 qui, lui, nous valide le scénario bullish là pour le moment. Donc voilà. Bon, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Donc voilà, ce sont les quatre objectifs. Je dirais qu'elle gère le côté bancaire. Alors maintenant, qu'est-ce que la Fed va faire? Selon les baromètres de marché, la Fed va-t-elle marquer une pause ce mercredi et voire pivoter à l'automne? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je vous conseille l'outil CME Fed Watch Tool, qui est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Le taux d'intérêt du marché qui anticipe le mieux le taux d'intérêt de la Fed, c'est le rendement obligataire à 2 ans, et on peut en faire l'analyse technique. On peut aussi regarder le positionnement institutionnel sur le rendement obligataire à 2 ans à l'aide du rapport Commitment of Traders, savoir ce que font les asset managers et les hedge funds dessus. On peut aussi regarder l'analyse technique des spreads de taux courts USA versus les autres monnaies majeures. Et on peut regarder, bien sûr, les signaux techniques et le positionnement sur le dollar américain qui anticipe aussi ce que fera beaucoup l'action de la Fed. Alors, tout d'abord, lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool, effectivement, eh bien, le marché à 77% anticipe une pause de la Fed lors de la réunion du 14 juin. Mais ce ne serait pas le taux terminal, puisque le marché anticipe qu'en juillet et en septembre, elle monte une dernière fois son taux, actuellement à 5,25, elle le montre à 5,50, avant de pivoter à l'automne. Ça, ce sont donc les anticipations du marché. Maintenant, le taux d'intérêt obligataire à 2 ans des États-Unis qui anticipe le mieux celui de la Fed, eh bien, alors il a rebondi récemment, mais moi j'estime en fait que nous sommes dans une zone de retournement à la baisse de long terme, qui est en fait la même que la zone de retournement à la baisse de 2007-2008, où à l'époque, ici, on avait fait un double top, on était entré dans le nuage avant de passer en dessous. Et en fait, moi, mon scénario, là, mais ce n'est que mon scénario, c'est que là, on est en train de préparer une pattern de renversement, ce sera peut-être une sorte d'épaule tête-épaule ou pas. Moi, j'estime qu'un retour du rendement US à 2 ans vers les 4,80-4,90, c'est une opportunité de short pour ensuite rentrer dans le nuage et entamer une phase de baisse. Ça, c'est mon scénario. Qu'en disent les institutionnels? Je suis ici sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC et j'ai donc choisi le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. J'ai choisi donc les futurs et les options. On s'est mis sur 2 ans. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que les hedge funds shortent massivement le rebond. Ils shortent massivement le rebond, ils ont commencé à shorter en octobre, et en octobre, eh bien, ils avaient déjà plus ou moins attrapé le point haut. Donc, moi, j'ai tendance à leur faire confiance et à me dire que là, ce sera une zone de renversement à la baisse. En fait, ce qui neutralise, si jamais l'inflation, la seule chose qui peut venir nuire cette anticipation, c'est un rebond explosif de l'inflation à la hausse. Les indicateurs de marché ne le disent pas pour l'instant, mais c'est le risque. C'est vraiment le risque. Et alors là, on est mal. Hein, parce que stagflation, là, on est mal. Et là, ça va être compliqué. Et là, la Fed ne pourra pas pivoter tant que l'inflation n'est pas, n'est pas vaincu, ça c'est à peu près certain. Vous avez aussi l'analyse technique des spreads de taux USA versus le reste du monde, où là on a un début face à certaines monnaies de retournement à la baisse, mais il faut surtout regarder le spread face à la zone euro qui s'est un peu stabilisé, mais c'est pas encore très très net. Les signaux ici sont encore un peu divergents. Donc voilà, ça c'est et puis enfin bien sûr la tendance que suit le dollar américain, j'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur le sujet, et voilà, est-ce que c'est une vague B ou pas, double bottom ou pas, dead cat bounce ou pas, ça c'est un sujet que j'ai traité dans le Fast and Forex, je vous invite à reprendre la vidéo, c'est aussi un baromètre majeur de ce que sera amené à faire la Fed. Et voilà, chers amis, eh bien, ainsi s'achève cette émission spéciale sur la Réserve fédérale des États-Unis. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses intéressantes. Merci à toutes et à tous pour vos likes, pour vos abonnements, et bonne semaine à tous. Merci.